Voici une question dont tout croyant a besoin d'une réponse claire. Si Dieu ne nous gardait pas près de lui, serions-nous capables de lui être fidèles? La parole de Dieu va nous rassurer par la réponse qu'elle va nous donner aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je vois tellement l'amour de Dieu à travers les enseignements qu'il nous donne jour après jour au cours de nos émissions. Pas vous? Voici les questions qu'on va lui poser aujourd'hui. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne concernant la justice qui vient de la foi? À qui Dieu dit-il de lui obéir? Qui a choisi Josué pour succéder à Moïse? Y en a-t-il parmi nous qui soit indispensable dans l'œuvre du Seigneur? Où devons-nous placer notre confiance pour continuer à marcher dans les voies de Dieu quand nous perdons un bon leader? Serions-nous capables de demeurer fidèles à Dieu sans qu'il nous accorde sa grâce? Comment pouvons-nous savoir si un style de musique est acceptable selon Dieu quand nous chantons ses louanges en assemblée? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Jean Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à laisser Dieu parler par sa bouche pour nous enseigner sa bonne parole. Mais premièrement, prions. Oh, merci Seigneur de nous enseigner régulièrement, à chaque jour. Merci pour ta parole qui est toujours à notre disposition pour qu'on connaisse ta volonté. Révèle-nous ta volonté à notre égard aujourd'hui, à travers tes belles écritures. On s'attend à toi, Seigneur. Amen. À toi, Réjean.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu laisse dans un esprit d'assoupissement ceux qui ne veulent pas le suivre ou lui obéir. En fait, si une personne ne croit pas, ce n'est pas à cause de l'Évangile ou de ce qu'elle voit et entend autour d'elle, mais à cause de la dureté de son cœur. Nous avons vu aussi que Dieu a traité l'alliance de la terre promise avec son peuple. Au cours de cette alliance, Dieu a fait 7 promesses, et ces promesses aboutissent à la restauration finale d'Israël dans la terre promise au deuxième retour de Jésus-Christ. Nous avons vu aussi que nous sommes responsables de l'accueil que nous faisons à l'Évangile. Aujourd'hui, nous poursuivons l'étude du chapitre 30 du livre du Deutéronome. Nous sommes rendus au verset 14, mais j'aimerais revenir sur les versets 12 et 13. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » Ces deux versets sont cités par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur « Qui montera au ciel ?» c'est en faire descendre Christ, ou « Qui descendra dans l'abîme ?» c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, versets 6 à 10. Cependant, Paul n'attribue pas les versets cités à Moïse, mais à la justice qui vient de la foi. Paul ne remplace pas la loi par la foi. Le passage du Deutéronome est prophétique et parle du jour où Israël reviendra à Dieu de tout son cœur. Voir Deutéronome, chapitre 33, verset 10. Ce passage traite de la nouvelle alliance que Dieu fera avec Israël. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Jérémie, chapitre 24, verset 7. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie, chapitre 31, verset 31-33. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Ce texte, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 8. Le Seigneur, un jour, transcrira sa loi dans le cœur des Israélites. L'Ancien Testament enseigne la justice qui vient de la foi. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui devait faire cette nouvelle alliance qui est encore à venir. La loi et les prophètes parlent de la justice qui vient de la foi. Entre-temps, il n'est pas nécessaire d'aller chercher le Seigneur Jésus au ciel. Il est déjà venu une première fois et il est mort pour nos péchés. Il n'est pas nécessaire de le ressusciter. C'est déjà fait. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, Israël avait la loi depuis 1500 ans et la connaissance de cette loi. Mais elle ne lui avait pas apporté la justice. Le Seigneur Jésus-Christ est venu comme la loi est venue. Il n'était pas loin. Mais il vivait parmi le peuple, et il est mort et ressuscité parmi lui. Tout comme la loi était près des Israélites, le Seigneur Jésus fut près d'eux. La justice qui vient de la foi leur était disponible, car elle fut prêchée au cours des années. La loi rendait témoignage à la justice qui vient de la loi, aussi bien qu'à la justice qui vient de la foi. Les deux ne font qu'un. Deutéronome, chapitre 30, parle d'un commandement, au verset 11, et non de plusieurs commandements. La justice qui vient de la loi n'a jamais sauvé personne, mais la justice qui vient de la foi en sauve plusieurs. Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi. Voilà en qui nous devons placer notre foi. Verset 14 à 16. « C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Leur séjour dans le pays dépendra de leur obéissance. Moïse résume leur histoire et leur dit qu'ils seront expulsés du pays s'ils désobéissent. Cependant, Dieu promet de les y ramener. Finalement, Dieu les ramènera en la terre promise et ils l'habiteront à perpétuité. Pourquoi? À cause de leur obéissance? Non! Mais parce que Dieu est fidèle à son alliance. C'est après leur retour qu'ils obéiront. L'obéissance suit le salut. C'est la même chose pour nous. Dieu nous demande de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel. Ensuite, une fois que c'est fait, il parle d'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. Premièrement, croire, placer notre confiance en Jésus, ensuite, lui obéir. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. l'amour et l'obéissance sont les grands thèmes du livre du Deutéronome. Si ces thèmes étaient importants pour Israël, combien plus le sont-ils pour nous aujourd'hui qui sommes sous la grâce et qui avons reçu beaucoup plus de lumière? Puisque nous avons davantage de révélations, notre responsabilité est encore plus grande. Je prie afin que le Seigneur me garde près de lui, mes amis. Nous devons aimer le Seigneur et nous tenir près de lui. Maintenant, chers amis, nous passons au chapitre 31, et cette section est un requiem à Moïse, et elle se termine au chapitre 34. Nous avons le cinquième discours prononcé par Moïse aux enfants d'Israël. Nous arrivons à la fin de la vie de Moïse. Toute la Bible jusqu'ici a été rédigée par Moïse. Une bonne partie traite de Moïse, puisqu'il est le personnage principal depuis la sortie d'Égypte. Il a dirigé Israël pendant 40 ans et il nous laisse le récit des 120 ans de sa vie. Maintenant, il se prépare à mourir. Deutéronome chapitre 31 versets 1 et 2. Moïse adresse encore ses paroles à tout Israël. « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. » Moïse rappelle au peuple qu'il a maintenant 120 ans. Il n'a plus la vitalité pour diriger le peuple. Désormais, ce n'est plus Moïse qui sera le personnage principal. Il ne guidera pas le peuple dans la terre promise. Josué sera le nouveau chef qui prendra la relève et il fera traverser le Jourdain au peuple. Verset 3. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Ce n'est pas Moïse qui a choisi Josué, mais bel et bien Dieu. Peut-être que si le choix avait été laissé à Moïse, il aurait pris quelqu'un d'autre. Caleb semblait avoir plus de potentiel que Josué. Il aurait pu être le choix naturel pour succéder à Moïse. Ou encore, Moïse aurait pu choisir un de ses fils pour lui succéder. C'est ce que les pharaons d'Égypte faisaient, et il aurait été naturel pour Moïse de faire la même chose. Mais Dieu a choisi Josué, et Moïse cesse d'être le personnage principal. Aucun de nous n'est indispensable dans l'œuvre du Seigneur. En fait, nous voyons qu'aucun de nous n'est indispensable dans l'œuvre que le Seigneur confie à ses disciples. Dieu nous appelle et nous utilise chacun dans notre temps. Mais lorsque nous avons accompli le travail que Dieu nous a confié, l'œuvre de Dieu continue tout de même. Un pasteur disait, « Je ne peux pas prendre ma retraite parce que ma présence est indispensable à l'Église. » Puis un jour, il est décédé, et son œuvre devint beaucoup plus prospère après sa mort. Nous pouvons penser que nous sommes indispensables, mais ce n'est pas le cas. Lorsque le temps viendra pour nous de laisser notre place, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. C'est ce qui se produit dans le cas de Moïse. Verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. L'Éternel marche avec les siens. Moïse encourage le peuple à ne pas craindre les tribus qui possèdent le pays. Notez qu'il encourage beaucoup la nouvelle génération et il leur dit d'entrer dans la terre promise. Moïse avait vécu à Kadès-Barnéa. Il a vu la première génération reculer à cause de la peur. Dieu rassure la nouvelle génération en leur disant que Dieu marchera avec elle, devant elle. Verset 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le mettras en sa possession. » Moïse a fait ce qu'il devait faire. Il a encouragé Josué devant tout le peuple. En même temps, il encourage toute la nation. chers amis, nous avons besoin de ces encouragements, nous aussi, pour poursuivre notre marche fidèlement avec le Seigneur. Verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Si les chefs changent, Dieu règne éternellement. Le prophète Ésaïe a dû apprendre cette même leçon. Dans Ésaïe, chapitre 6, verset 1, nous lisons « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Ozias avait été un excellent roi, et maintenant il était mort. Ésaïe craignait que le prochain roi ne soit pas aussi efficace et que les choses aillent mal. Mais qu'a-t-il découvert en se rendant au temple? Il a vu que Dieu régnait toujours. Si Ozias était mort, Dieu était aussi vivant que jamais. Il était assis sur son trône, en train de régner. Verset 9. Moïse écrivit cette loi et il la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Le livre du Deutéronome ouvre avec les mots suivants. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Le livre contient 8 discours de Moïse. Ils furent prononcés par Moïse et transcrits par la suite. Moïse est l'auteur de la loi. Des érudits nient que Moïse ait écrit le livre et ils affirment que c'est une compilation faite vers 400 avant Jésus-Christ. Ils affirment que l'Écriture n'existait pas au temps de Moïse. Petite nouvelle pour chacun d'entre eux, ces érudits. Les archéologues ont depuis longtemps prouvé le contraire, mais certains enseignent encore cette théorie. Les prophéties du livre sont si précises que les théologiens libéraux préfèrent penser que c'est un récit historique plutôt qu'un récit prophétique. Il présuppose que les miracles sont impossibles. Sans la grâce de Dieu, nous ne lui serions pas fidèles. Nous penserions que Dieu n'établirait pas le peuple dans la terre promise s'il y avait une possibilité qu'il se détourne de lui. Pourtant, il annonce à Moïse que cela se produira. Dieu connaît la nature humaine et il sait tout de nous, de chacun de nous. Il connaît notre cœur. Mes amis, si Dieu ne nous gardait pas près de lui par sa grâce, nous nous détournerions de lui le temps de le dire. Voyez ce que Dieu dit à Moïse. Versets 14 à 17. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. » Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera au dieu étranger du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera. » Et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, « N'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint ?» Bien des personnes pensent que nous sommes différents aujourd'hui, et que nous ne nous détournerons pas de Dieu. Cependant, le Seigneur Jésus a donné le même avertissement à son Église. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 8, il a dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Dans ce verset, par la foi, nous entendons toute la vérité révélée par Dieu. La réponse est non, en fait. La formulation de la question dans le texte grec demande une réponse négative. Le Nouveau Testament prédit l'apostasie de l'Église, tout comme celle d'Israël fut prédite. Nous vivons dans cette période d'apostasie aujourd'hui, chers amis. Nous voyons de plus en plus d'églises se détourner de la foi et de la simple parole de Dieu. Elles ne mettent plus l'accent sur cette parole, sur les saintes écritures. Nous voyons de nombreux ouvriers dans l'œuvre de Dieu, qui après être entrés dans le ministère, se détournent de la foi dont ils ont fait profession au début de leur carrière. Ils se détournent des choses de Dieu. Ne disons pas que cela ne nous arrivera jamais. Prions humblement Dieu, afin qu'il nous donne la grâce nécessaire pour demeurer dans ses voies. Humilions-nous devant sa main toute puissante, afin qu'il nous préserve du malin, qu'il nous garde près de lui. Versets 19 à 21. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseignez-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasira, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique, qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais, en effet, ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'aie fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. La musique a une influence énorme sur nous. La musique que nous retrouvons dans certaines églises est loin de glorifier Dieu. Nous devons tenir compte d'un principe biblique important lorsque nous choisissons le type de musique que l'on jouera dans nos églises. En voici le principe. Deux questions pour déterminer si un style de musique est acceptable. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 19. En écrivant ces lignes, l'apôtre Paul traitait des dons, en particulier du don des langues. Mais les principes qu'il nous donne s'appliquent à l'ensemble d'un service religieux. Appliqué à la musique, cela veut dire que les paroles d'une chanson doivent édifier, donc être exactes doctrinalement. Ensuite, les paroles doivent être faciles à comprendre. Elles ont beau être édifiantes, si elles sont mises sur une musique difficile à écouter, elles ne profitent à personne. Donc les questions à poser en ce qui touche la musique ne sont pas quels instruments sont permis et quels styles de musique sont admissibles. Il faut se demander si les paroles sont édifiantes et si le style de musique permet de les entendre facilement. Si vous pouvez répondre oui à ces deux questions, la musique est acceptable, même si elle n'est pas traditionnelle. Les paroles peuvent transmettre de la fausse doctrine ou être trop superficielles. Il est difficile d'entendre les paroles avec certains styles de musique. N'oubliez pas, que ce soit en paroles ou en chansons, notre but est toujours de glorifier Dieu et de proclamer son évangile. Édifier le peuple de Dieu. Tu joues de la musique? Tu chantes? Mets ton don à la portée du corps de Christ, de l'Église. Édifie ton Dieu. Chers amis, prochaine émission, Deutéronome chapitre 31, verset 24, à Deutéronome chapitre 34, verset 12.
Oh, merci beaucoup, Régent. Tu as mentionné aujourd'hui qu'aucun de nous n'est indispensable dans l'œuvre du Seigneur. Je pense que tout chrétien doit réaliser ça, et surtout ceux qui travaillent dans un ministère à temps plein. Dernièrement, plusieurs ouvriers à notre église ont été malades, et je loue et remercie le Seigneur de nous avoir donné un pasteur qui réalise le principe que personne n'est indispensable. C'est pourquoi, quand il fait notre formation, il insiste pour qu'à notre tour, on forme d'autres personnes qui seront équipées, non seulement pour nous assister, mais aussi pour nous remplacer en cas de maladie ou au cas où le Seigneur nous appellerait à le servir ailleurs. Je disais donc que plusieurs de nos ouvriers ont été malades dernièrement. Dans mon cas, il y avait seulement le repos qui pouvait m'amener à récupérer, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Et je voyais la montagne de travail qui était devant moi. Mes forces diminuaient à vue d'œil et je ralentissais. Heureusement, mon pasteur est venu vers moi et m'a presque ordonné d'arrêter et de me reposer. Parfois, Dieu se sert de l'un de ses enfants pour nous ramener à notre bon sens. Merci, Seigneur. Je me suis donc reposée et j'ai remis à plus tard ce qui était le moins pressant. Et d'autres personnes que j'avais formées m'ont remplacé dans ce qui était le plus urgent. Par exemple, je ne pouvais pas animer l'un de nos cultes d'adoration, et un frère s'est offert pour le faire à ma place. Et le dimanche matin où il m'a remplacé, j'étais assez bien pour être à l'assemblée, et j'ai été tellement bénie à travers les chants qu'il avait choisis, j'ai été édifiée par les paroles qu'il a apportées lorsqu'il intervenait entre certains chants. Notre assemblée n'a pas été privée, elle a même été comblée. Et je me suis reposée, et le frère qui m'a remplacé a pu mettre en pratique les dons que l'Éternel lui a donnés. Mais gloire à Dieu! En parlant de chant dans l'assemblée, on a appris aujourd'hui ce qui détermine si un style de chant est acceptable pour nos cultes d'adoration. On a vu que les paroles doivent édifier, être exactes selon la parole de Dieu et faciles à comprendre. Elles doivent aussi être mises sur une musique qui soit facile à écouter. Je suis bien heureuse que Régent ait mentionné que les instruments et les styles de musique utilisés étaient tous acceptables, même s'ils n'étaient pas tous traditionnels, en autant que cela serve à l'édification. Personnellement, je crois qu'on ne doit pas oublier la nouvelle génération qui grandit parmi nous. Cette génération a besoin de s'exprimer avec des styles de musique que nous n'avons pas tous connus. Et je m'efforce de leur offrir des chants qu'ils auront du plaisir à chanter dans la présence de Dieu et pour sa gloire. Toutefois, je n'oublie surtout pas les personnes qui connaissent le Seigneur depuis 20, 30, 40 ans et plus. C'est tellement beau de voir ces personnes remplies de la joie du Seigneur alors qu'elles chantent ces bons vieux cantiques traditionnels. Pour ma part, je remercie le Seigneur parce que j'ai du plaisir dans tous les styles musicaux. Sauf ceux qui ne collent pas aux paroles, qui ne servent pas à nous amener dans la louange et dans l'adoration. Et je remercie Dieu d'avoir choisi ce moyen pour nous amener à le louer, à l'adorer. C'est tellement merveilleux de pouvoir lui chanter ses louanges de tout notre cœur. Dieu est digne de notre adoration.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Régent, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.